Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous êtes allé déjà sur le port de Toulon depuis hier matin. Il y a des mâts qui montent très très haut, des très gros bateaux, enfin 5 très gros bateaux et 35 bateaux un peu plus petits. Et un week-end de voile spécial et avec un rassemblement de vieux bateaux. Et parmi ces vieux bateaux, ces 40 vieux bateaux, il y en a 5 qui sont très très gros, qui font de 30 à 40 mètres de long, avec 7 à 8 mâts, des trucs énormes. C'est assez impressionnant, on peut même les visiter, monter sur les bateaux, visiter, enfin c'est assez impressionnant. Et ces bateaux, ces constructions, ça fait penser que pour faire ça, il va falloir du boulot. C'est des vieux bateaux la plupart du temps. Il va falloir un bon architecte naval au départ pour penser à tous ces bateaux, à tout ce qui doit, tout l'ordonnancement du bateau. Et après, beaucoup d'ouvriers pour construire ce bateau. Beaucoup de personnes pour le faire naviguer, pour le conduire sur les mers. Ça change de la petite barque qu'on voit, ou du petit bohélier qu'on voit souvent dans nos ports. Là, ça fait vraiment impressionnant. Alors, il y a ces gros bateaux, il y a aussi des grosses constructions. Ici, à Toulon encore, on n'a pas des immeubles, des gratte-ciels énormes. On n'est pas à New York ou à Singapour, où il y a des gratte-ciels qui montent à plus de 500 mètres, ou dans les Émirats arabes, où ils ont des projets de gratte-ciels qui sont énormes. Là aussi, ces gratte-ciels, c'est vraiment énorme, ça demande beaucoup de monde pour construire. Un architecte aussi qui doit prévoir tout ce qui doit se passer, enfin toutes les imprévus, toutes les choses qui pourraient se passer. Pour les bâtiments, ça c'est les tremblements de terre, les inondations, les ouragans. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des reportages au Japon où ils construisent beaucoup de bâtiments assez hauts et ils sont spécialement contre les tremblements de terre, donc avec une façon de construire spéciale où des immeubles qui font des dizaines de mètres sont capables de bouger. On penserait qu'il faut que l'immeuble soit bien ancré dans le sol et qu'il soit fixe et qu'il ne bouge pas. Justement, pour les tremblements de terre, il faut qu'il bouge, soit capable de bouger. Toutes ces constructions donnent l'impression vraiment d'être solide, d'être incassable. Alors on a des exemples opposés, hein. On voit souvent, par contre dans les pays du tiers-monde ou dans les pays plus pauvres, ou dans des pays où la construction est un peu illégale, je ne sais pas, il y a quelques années en Italie, c'était un peu une spécialité du côté de Naples, de construire un peu n'importe comment, et dès qu'il y avait une pluie, un orage un peu plus puissant, les maisons s'écroulaient. Et juste une anecdote, mes parents avaient des amis italiens qui avaient fait construire il y a une quarantaine d'années une maison comme ça, un peu à la va-vite. Pourtant, il était maçon, le monsieur, et au premier orage, la maison s'est écroulée. Donc c'est un peu terrible, et on voit que les fondations n'étaient pas très solides. Mais même des bâtiments très très solides peuvent s'écrouler par des circonstances exceptionnelles. On pense, pour ceux qui l'ont vu, au World Trade Center. Quand on voit l'image, on est toujours étonné de voir que ces tours sont capables de s'écrouler. Bon, après, on a des explications de pourquoi, du comment, mais même deux avions qui rentrent dedans, c'est très impressionnant. Mais quand on voit les deux avions, on ne pense pas que quelques minutes après, les tours vont s'écrouler. Donc, en apparence, elles sont très solides, et pourtant, elles ne sont pas si solides que ça. Et elles sont capables aussi de s'écrouler sous des événements exceptionnels. Alors je vous propose de prendre un texte dans la première épître de Pierre, au chapitre 2 et au verset 5. C'est un texte qui nous raconte aussi une construction, un édifice, et cet édifice c'est la maison de Dieu, c'est l'Église, et elle nous est décrite par notre action à nous, par notre intervention à nous, qui faisons cet édifice. Donc, la première épître de Pierre, le chapitre 2 et le verset 5. « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Voilà cette construction, cette maison qui est l'Église. Et j'aimerais dégager quatre termes qui sont donnés dans ce verset. Le premier, ce sera les pierres vivantes. Le deuxième, ce sera une maison spirituelle. Le troisième, un saint sacerdoce. Et le but de tout cela, des victimes spirituelles. Et vous, comme des pierres vivantes. Il y a là une identification à Jésus-Christ. Juste le verset d'avant, le verset 4, il est dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » Jésus-Christ est la pierre vivante et nous devons être comme lui, comme des pierres vivantes. Alors on a plusieurs passages dans la parole de Dieu qui nous parlent de Jésus-Christ comme étant une pierre. On a la pierre d'angle, entre autres dans Éphésiens 2:20, cette pierre d'angle qui est le fondement de l'Église, la base de l'Église de Dieu. On a aussi la pierre d'achoppement, vous l'avez en deux versets plus loin, 1 Pierre 2:7, où il est dit que Jésus-Christ est une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Alors là, c'est pour sa première venue sur terre, pour ceux qui ne le reconnaissent pas, et plus particulièrement pour le peuple juif, pour ceux d'entre le peuple juif qui ne l'ont pas reconnu, il peut être la pierre d'achoppement. Donc en 1 Pierre 2:7 ou en 1 Corinthiens 1:23 aussi. Et Jésus peut être aussi la pierre principale. On l'a dans le livre de Zacharie, en Zacharie 4:7. Ça, c'est plus en vue de sa deuxième venue, il dit qu'il est la pierre principale du peuple d'Israël. Donc c'est en Zacharie 4:7. Sommes-nous des croyants conformes à l'image de Jésus-Christ, des pierres vivantes, qui tout au long de notre cheminement de chrétien, progressons dans sa connaissance. Nous sommes donc appelés à être des pierres vivantes, et des pierres vivantes qui sont à la base de l'Église locale, la base de la communauté où l'on est. Et nous sommes tous des pierres vivantes. Il n'y a pas certains qui seraient pierres vivantes et d'autres qui seraient autre chose. Et vous-même comme des pierres vivantes. Voilà. La base de l'Église de Dieu, la base de l'Assemblée chrétienne, c'est d'être des pierres vivantes comme Jésus-Christ. Avant d'aller plus loin, on peut se demander, bien sûr, si on est présent ce matin, si on va au culte, est-ce que je suis une pierre vivante? Est-ce que je suis d'abord une pierre? Est-ce que je suis un enfant de Dieu? À cette question, il faut répondre par un oui ou par un non, il n'y a pas de... Mais peut-être, ou peut-être bien que oui, peut-être bien que non. C'est soit on en est certain, soit on en est convaincu, soit on ne l'est pas. Et si ce matin on n'est pas convaincu, il faut plier le genou devant le Seigneur et lui demander d'en être convaincu. Et il fait grâce à tout le monde et il nous donnera d'être convaincu que l'on est une pierre à l'image de Jésus-Christ. Et enfin, suis-je une pierre morte ou suis-je une pierre vivante? Ai-je une vie intime avec Dieu? De lecture de la Bible, de prière. Est-ce que les œuvres de Dieu dans ma vie sont en action? Est-ce que je suis vivant pour mon Église? Est-ce que je prends ma part? Il y a de la place pour tous dans l'Assemblée de Dieu, chacun avec... ses talents. Enfin, être vivant, ce n'est pas forcément celui qui fait le plus de bruit ou ceux qui font le plus de bruit, ceux qui sont le plus exubérants. On peut être vivant dans la sobriété et dans le tempérament que Dieu nous a donné. On peut être vivant aussi dans l'exubérance et dans le tempérament qu'aussi Dieu nous a donné. Donc que chacun on puisse prendre notre place dans l'Église du Dieu vivant, qu'on puisse être comme le Seigneur Jésus-Christ, des pierres vivantes, des pierres des enfants de Dieu, vivants, qui ont une vie avec Dieu. Alors nous qui sommes des pierres vivantes, qui formons l'Église, il y a comme une progression après. Et vous, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former tout d'abord une maison spirituelle. Alors pourquoi une maison ? Dans le Nouveau Testament, l'Église, surtout dans le livre des Actes, est souvent appelée une maison. Et on voit que les premiers chrétiens, en fait, se sont la plupart du temps réunis souvent dans une maison. Les apôtres, avec les premiers disciples, allaient prier au temple, mais souvent ils se réunissaient entre eux pour prier, pour louer le Seigneur, pour partager le pain dans des maisons. Et donc souvent, le mot maison a été repris pour le terme d'église. Alors le mot maison est aussi au sens de la famille, mais à l'époque de l'Église primitive, la famille ne se réduit pas à papa, maman et les enfants. C'est papa, maman, les cousins, les cousines, la famille est beaucoup plus élargie au Moyen-Orient. Hein. Et dans la culture juive, la famille ne se résume pas qu'à le père, la mère et les enfants. Donc le sens de famille, de communauté. Donc l'Église est la maison de Dieu. Et on a plusieurs versets qui nous donnent, qui nous rappellent ce terme de maison comme étant comme l'Église. C'est Éphésiens 2, 19, d'abord. Il nous est dit, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Là, on voit qu'il parle aux Éphésiens, aux frères et sœurs de l'église d'Éphèse, et il leur dit, « Vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Donc l'Église est vraiment rattachée au mot de maison. Et aussi dans la première épître de Timothée, au chapitre 3 et au verset 15, où il est demandé à Timothée, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Là, il a répété, « Tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. » Une maison spirituelle. Comment se forme une maison ? Déjà avec des fondations. Et la fondation, le fondement de notre maison, de l'Église, c'est bien sûr, je pense que vous le savez tous, c'est Jésus-Christ. Il y a plusieurs versets qui nous le disent, dont Éphésiens 2:20, où il dit que Jésus-Christ est vraiment le fondement, la base de l'Église. Et quand cette maison, comme il nous est demandé là, dans ce verset de Pierre, de l'épître Pierre, quand cette maison devient-elle une maison spirituelle ? Cette maison peut devenir une maison spirituelle quand elle est conforme à la volonté de Dieu, quand elle recherche la volonté de Dieu. Et enfin, par un petit mot qui commence cette phrase, par l'édification mutuelle. Parce qu'il nous est dit, et vous-même comme des pierres vivantes, donc c'est la base, nous sommes des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Édifiez-vous. Pour que la maison devienne spirituelle, il faut s'édifier. Alors, qu'est-ce que veut dire s'édifier ? Alors, dans le dictionnaire, vous trouverez une définition qui veut à peu près dire cela. Édifiez-vous. S'édifier, c'est faire grandir, c'est construire, c'est bâtir ensemble par la collaboration de tous les membres. Alors, quel peut être l'édification au sein de l'Église. L'édification au sein de l'Église, c'est l'enseignement, c'est soutenir, c'est aider, c'est avoir le souci des autres. Et j'aimerais qu'on prenne un verset dans la première épître aux Corinthiens. C'est le chapitre 8 et le verset 1. Alors, au début, ça parle pas forcément du même sujet, quoique. Mais après, on arrive sur le terme d'édification. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime celui-là est connu, si quelqu'un aime Dieu, pardon, celui-là est connu de lui. Qu'est-ce que c'est qui édifie ? C'est l'amour. Mais l'amour édifie. L'amour fait grandir. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour fraternel au sein de l'Église qui permet à l'Église de s'édifier, à l'Église de grandir, à l'Église de devenir une maison spirituelle, une maison conforme à la volonté de Dieu, une maison qui cherche la volonté de Dieu. L'Église peut-elle être une maison non spirituelle ? Alors on pourrait dire, ah non, l'Église elle peut être que spirituelle, elle va suivre Dieu, elle va être à côté de Dieu et elle est toujours à rechercher la volonté de Dieu. Je pense que malheureusement la parole de Dieu nous le dit, une Église peut être non spirituelle. Alors, on ne va pas faire le détail de ce que cela peut être, mais j'invite simplement à relire les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, où on a différents visages de l'Église, qui peut être à différents moments historiques, ou même différents temps de vie d'une personne ou d'une communauté, où on voit que certaines églises à certains moments, peuvent être non spirituelles, ou au contraire d'autres, peuvent être spirituelles. Donc là, vous trouverez tous les exemples dans ces chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, qui nous décrit ces sept églises. Donc l'Église peut être spirituelle ou non. C'est la responsabilité de chacun d'entre nous de veiller à ce que l'Église soit spirituelle. Alors c'est bien sûr en premier lieu la responsabilité des pasteurs et des anciens dans la communauté. Mais ce n'est pas simplement leur responsabilité à eux, c'est la responsabilité de tous, de toutes les pierres vivantes. Comme il est dit dans ce passage, « Et vous, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. » Alors bien sûr, les pasteurs, les anciens, ont une responsabilité particulière. Même Dieu dit qu'ils ont une responsabilité plus grande que les autres. Mais comme il nous est dit là, nous sommes des pierres vivantes, c'est à nous de nous édifier, dans l'amour de Dieu, dans sa volonté, à rechercher sa volonté, pour grandir et pour être, pour que notre Église, pour que notre communauté soit une maison spirituelle. Après la maison spirituelle, Pierre dit, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, puis continuez, donc on pourrait dire continuez, édifiez-vous de nouveau, pour former un saint sacerdoce. Alors qu'est-ce que ça veut dire ces mots saint sacerdoce ? Bon, saint, on comprend à peu près ce que ça veut dire. Saint, on voit tout de suite l'image de Dieu qui est saint, de Jésus-Christ qui est saint. Vous avez dans la même épître de Pierre, en 1 Pierre 1, 16, où il est dit, on va vite le lire, Un pierre. Un pierre, 1,16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Donc si nous pouvons devenir un saint sacerdoce, c'est parce que Jésus-Christ est saint. Et parce qu'il est saint, nous sommes saints. Alors la sainteté, ce n'est pas la sainteté humaine qu'en a fait, je dirais, l'histoire religieuse et tout ce que ça entraîne. Ce n'est pas la perfection, c'est vraiment suivre les pas de Jésus-Christ. Être saint, c'est parce que Jésus nous a sauvés que nous sommes saints. C'est parce que lui est saint que nous sommes saints. C'est pas parce que moi, Olivier, je suis parfait. Pas parce que je marche toujours droit. Non, certainement pas. C'est parce que Jésus-Christ est saint. Édifiez-vous pour former un saint, donc nous sommes saints par Jésus-Christ, sacerdoce. Alors qu'est-ce qu'un sacerdoce ? Un sacerdoce, ça a la même, on pourrait voir tout de suite, on va dire, ça a la même racine que sacrifice, que sacrificateur. Alors dans le dictionnaire, le sacerdoce, c'est une fonction qui présente un caractère respectable. Donc c'est une fonction qu'on peut faire que tant que quand on a une certaine respectabilité, on pourrait dire. C'est pour ça que le mot saint, je dirais, est accolé à sacerdoce. Un sacerdoce ne peut pas être non saint, entre guillemets. Il peut pas être. S'il est impur, il est mauvais. On pourrait prendre l'image des Israélites qui n'avaient pas le droit de toucher l'Arche de l'Alliance. Eux, ils pensaient bien faire en redressant l'Arche de l'Alliance. Et ils n'étaient pas saints pour toucher l'Arche. Et ils sont morts, ceux qui ont touché. Ils auraient dû laisser tomber. Voilà, donc c'est le sacerdoce, c'est quelque chose qui est saint. C'est une fonction qui présente un caractère respectable. Alors, qui est amené à accomplir ce saint sacerdoce ? Tous les chrétiens. Tout au long de l'Ancien Testament, c'est certain que Dieu avait mis à part, auquel Dieu avait demandé de faire les sacrifices. Et avec l'arrivée de Jésus-Christ, une nouvelle ère s'enclenche et tous les chrétiens sont appelés à pratiquer les sacrifices, à accomplir ce saint sacerdoce. On a plusieurs exemples dans la parole de Dieu, mais dont un qui est très connu dans l'Apocalypse 1,6. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Tous sacrificateurs. Et au moment de la réforme, au moment de la réforme protestante, c'est Luther qui est le premier à employer un terme qui n'est pas marqué dans la parole de Dieu, mais qui représente un concept que Dieu présente à travers plusieurs versets, ce que Luther a appelé le sacerdoce universel des croyants, et ce que la plupart des réformateurs de l'époque, Calvin et ceux qui l'ont suivi, ont repris eux aussi, l'idée que tous ont accès auprès de Dieu, que tous les croyants ont accès direct à Dieu par Jésus-Christ. Et ils ont employé ce terme et cette idée, la plupart du temps, en réaction à la conception qu'avait à l'époque l'Église de Rome, où seul un certain nombre, une certaine caste, avait accès auprès de Dieu et où le reste du peuple chrétien n'avait pas accès direct, mais devait passer par des intermédiaires humains. Un sacerdoce universel. Tous sacrificateurs. J'aimerais qu'on prenne là-dessus un verset dans Exode 19.6, qui nous montre que depuis très longtemps, Dieu avait en projet pour son peuple d'arriver à ce saint sacerdoce, à ce que tous les chrétiens soient à même de pratiquer le sacrifice. Dans Exode 19, et au verset 6, il est dit « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Tous sont appelés à devenir sacrificateurs. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Quel est le saint sacerdoce de l'Église? Quel est notre saint sacerdoce? C'est faire connaître Dieu aux hommes, premièrement. C'est témoigner de la parole. C'est être l'image de Dieu sur cette terre. Nous sommes tous sacrificateurs. Nous avons tous accès direct auprès de Dieu. Et enfin, un dernier mot sur ce terme de saint sacerdoce. Dans tous les passages de la parole de Dieu qui parlent de ce terme, on voit une chose, c'est que le sacerdoce, le saint sacerdoce, il est collectif et il n'est pas individuel. C'est l'Église, c'est la maison de Dieu, c'est la maison spirituelle qui est à même d'apporter ce saint sacerdoce. Ce n'est pas moi tout seul avec ma personne, même si tous individuellement nous sommes sacrificateurs, c'est collectivement que nous accomplissons ce saint sacerdoce. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Là, on a vu la construction. Et vous-même, déjà les pierres, Jésus-Christ, la première pierre, puis nous, les pierres vivantes, qui formons les murs de l'Église, qui formons tout le corps, édifiez-vous pour que cette maison soit une maison spirituelle et pour que cette maison accomplisse un saint sacerdoce. En vue de quoi? Parce que tous les bâtiments ont une finalité. Les grands immeubles, c'est pour des bureaux, pour accueillir des sociétés ou pour loger des personnes. Les énormes bateaux, c'est pour voguer sur les mers, c'est pour naviguer. Je ne sais pas si vous rappelez là, juste une anecdote, mais un bateau, c'est fait pour naviguer dans les eaux. Hein. Si c'est au port tout le temps, c'est pas forcément. Alors ils en transforment certains en musées. On va dire que c'est pas forcément la finalité première. Pour ceux qui ont écouté la chanson de Michel Sardou sur le France, à un moment, il dit qu'il préfère être coulé que rester au port en Californie. Voilà, donc c'est aussi. Toutes ces constructions ont une finalité. Le bâtiment pour accueillir des gens, quand ils sont vides, ben on les fait écrouler, hein. On les casse, on les détruit. Et l'Église, pareil, a une finalité. Et cette finalité, ce but, son travail à l'Église, c'est d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alors les victimes spirituelles, ce sont tout simplement les sacrifices que nous devons accomplir pour être agréables à Dieu. Un premier verset pour décrire ces sacrifices, dans le psaume 141, et psaume 141 au verset 2, qui présente le sacrifice d'une manière un peu plus large. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et mes mains tendues comme l'offrande du soir. Il y a un premier exemple donc de sacrifice. que ma prière soit devant ta face comme l'encens. On faisait souvent brûler de l'encens pour rendre gloire à Dieu, où on mélangeait l'encens au sacrifice, et mes mains tendues comme l'offrande du soir. Alors dans la pratique, quelles peuvent être ces victimes spirituelles? Quels peuvent être ces sacrifices que Dieu nous demande? On ne va pas lire tous les versets qui pourraient nous donner les sacrifices. On va lire deux versets en hébreu et un verset en romain. Donc deux versets, Hébreux 13, 15 et 16. Hébreux 13, 15 et 16, qui nous dit vraiment très clairement ce que peuvent être nos victimes spirituelles. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Voilà un premier sacrifice qui nous est demandé, des premières victimes spirituelles. Qu'est-ce que Dieu nous demande en tant que chrétien, en tant qu'Église? C'est par lui, par Jésus-Christ. Le par lui, là, identifie Jésus-Christ. Donc c'est toujours par l'accès à Jésus-Christ, par Jésus-Christ que nous avons accès à Dieu, pardon. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Et il explique très clairement ce que c'est. Le fruit de lèvres qui confesse son nom. Alors le sacrifice de louange, c'est ce que nous venons de faire ce matin pendant le culte, de louer, d'adorer Dieu, de prier, de chanter. Mais on peut le faire aussi individuellement nous-mêmes, en priant, en chantant, en remerciant Dieu. Et un deuxième, le verset qui suit, et n'oubliez pas, toujours dans les sacrifices, la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Voilà deux autres exemples de sacrifices que Dieu agrée, de victimes spirituelles que Dieu agrée. C'est la bienfaisance, faire du bien, et la libéralité. Alors la libéralité, c'est tout simplement la disposition à donner largement, avec générosité, mais aussi surtout sans contrepartie. On dit que quand on donne avec libéralité, on donne sans contrepartie, généreusement, sans attendre en retour quelque chose. Ces victimes spirituelles, louer Dieu, mais aussi le service pratique pour les autres, faire le bien, la bienfaisance et la libéralité. Voilà deux exemples parmi d'autres de ce que peuvent être les victimes spirituelles. Il y a un autre verset qui nous parle du sacrifice que nous pouvons accomplir, c'est en Romains 12, Romains 12, 1, où il nous est dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Alors, il faut tout de suite enlever les ambiguïtés qui pourraient venir de ce texte. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Nulle part dans la parole de Dieu, nulle part dans le christianisme, il n'est demandé où Dieu n'agrée la martyrologie, le martyr. Dieu permet que certains chrétiens aillent au martyr. Paul, qui a écrit cette épître, est allé jusqu'au martyr. Il y a des chrétiens à l'heure actuelle, qui vont malheureusement jusqu'au martyr, qui doivent payer de leur vie leur foi. Mais Dieu ne nous demande pas, dans ce texte-là, de nous sacrifier physiquement, d'aller mourir comme des martyrs. Non, ce qu'il nous demande, dans le terme « offrir vos corps comme un sacrifice vivant », c'est se consacrer à Dieu seul. Le corps, là, représente, en fait, la totalité de nos vies, de nos activités. Elle représente notre personne, ce que nous sommes. Et ce que Dieu agrée, ce qui est agréable à Dieu, c'est que nous offrions notre vie entière, tous les petits recoins qui sont dans notre cœur, toutes les petites choses qu'on laisse bien fermées à la présence de Dieu, tous les petits temps où on dit « Non, Seigneur, laisse-moi ce temps encore un petit peu », alors ça sera plein de choses différentes pour chacun d'entre nous, hein. On n'est pas, nous n'avons pas toutes les mêmes choses. Pour certains, ce sera tel loisir qui prendra énormément, énormément de place. Pour d'autres, ce sera le travail qui prendra plus que ce qu'il faudrait au détriment de la vie avec Dieu, au détriment de la vie de famille. Pour d'autres, ce sera des choses plus difficiles. Il peut y être pour des chrétiens que ce soit l'alcool, que ce soit les drogues ou, qui prennent de la place dans la vie, qui prennent la place que nous devrions offrir à Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà quelques exemples des victimes spirituelles que Dieu attend de son Église et que Dieu attend de chacun d'entre nous. On va conclure ici. Comme nous venons de le voir dans ce verset, de 1 Pierre 2,5, que je vais relire. L'Église de Dieu est donc un édifice qui se construit avec une base Jésus-Christ, avec des pierres vivantes qui sont chacun d'entre nous, qui forment un corps, avec une action, un saint sacerdoce, et avec un but que cette maison, que cette Église, que cette Assemblée, que l'Église universelle de Jésus-Christ sur cette terre soit à même d'offrir ses victimes spirituelles. Nous sommes tous les murs, les pierres vivantes. Nous devons tous être aussi sacrificateurs du Dieu Très-Haut. Et nous devons tous, ensemble, être capables d'offrir à Dieu ses victimes spirituelles. Je vais relire une dernière fois le verset de 1 Pierre 2,5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. On va s'incliner pour prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre grâce de ce que tu nous dis dans ce verset. Tu nous dis que nous sommes des pierres vivantes comme toi la pierre d'angle, la pierre fondatrice. Tu veux que nous aussi nous soyons des pierres de notre Église, des pierres qui s'assemblent pour former ce corps. Donne-nous, Seigneur, d'être de ces pierres vivantes qui font qu'ensemble, l'Église devienne d'une maison spirituelle. Et donne-nous, Seigneur, de ne pas rechigner pour accomplir ce que tu veux, ce qui t'est agréable, ces sacrifices, de te louer, de t'adorer, d'accomplir les œuvres que tu mets pour nous dans ton Église, les œuvres de bienfaisance, de libéralité, d'offrir nos corps tout entier, nos vies tout entières en sacrifice, de les offrir pour toi seul. Nous voulons, Seigneur, vraiment nous attendre à toi pour être une Église vivante, être des chrétiens vivants, non pas des chrétiens de nom simplement, non pas des chrétiens parce qu'on vient au culte, mais des chrétiens qui ont une vie avec toi, qui ont une vie individuelle avec toi, et qui ont une vie collective avec toi. Nous voulons te rendre grâce pour toute chose, te demander que tu nous aides tout au long de notre vie à accomplir ce qui t'est agréable. Dans ton Saint-Nom. Amen.